Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, malgré l'âge, s'est très buriné par l'inarrêtable course du temps. La sagesse qui accompagne cette maturité qui chaque jour nous envahit un peu plus peut passer en quelques secondes de l'état de vieux sage zen à celui de chaton terrifié souillant le tapis du salon. Il suffit pour ça d'une bonne dose d'horreur savamment dispensée, comme c'est si bien le produire le cinéma, à condition d'être bien fait, évidemment. Et c'est donc avec tout notre amour pour l'angoisse et la terreur que nous allons éplucher ensemble un des nouveaux venus dans le genre, Hérédité d'Ari Aster. On va le faire avec un duo d'adorateurs du démon réunis ici à l'antenne Paris, Julien Dupuis. Puis salut Julien.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné, c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Hérédité donc nous plonge dans la vie bien éprouvante d'une famille américaine sur les traces d'Annie Graham, alias Toni Collette, fabricante de miniatures, retournant sur les lieux de son passé à l'occasion de la mort de sa maman, une femme pas facile, dirons-nous poliment. Et alors qu'elle s'installe dans la demeure familiale avec mari et enfant, les secrets de sa défunte mère vont leur sauter à la gueule, pour le pire évidemment.
I am your mother.
I just don't want to put any more stress on my family.
Et c'est donc le premier film d'Ari Aster, et au casting, outre Toni Collette, on trouve Anne Dowd, Gabriel Byrne et la terrifiante Millie Shapiro dans le rôle de Charlie, la fille très perturbée du couple. Votre avis sur cette Hérédité, messieurs? Julien.
C'est
toujours, toujours sur toi.
Ouais, ouais, mais... moi, c'est un film que j'aime bien,
okay.
qui a ses défauts, surtout dans la deuxième partie. Bon, je pense qu'on va être amené à en parler. Je l'aime bien pour plusieurs raisons. C'est déjà parce que je trouve que dans le cinéma américain, mais je pense que c'est vraiment dû à la société américaine, on ne croit pas à la fatalité, en fait. Je pense que, enfin, tout le cinéma, une grosse partie en tout cas du cinéma de voyage dans le temps, a été travaillé autour de ça. C'est-à-dire que tu reprends ta vie en main et puis tu peux gagner et tout. Et justement, tout le truc d'Hérédité, je trouve le truc intéressant, c'est de montrer que non, il y a une fatalité, que de toute
qui
façon...
Qui nous rattrape de toute façon.
Voilà, et qui nous rattrape de toute façon. Et je trouve que c'est plutôt très bien travaillé à travers plusieurs choses. Ce qui me semble le plus efficace, c'est que le personnage que joue Toni Collette, qui est Anna, c'est ça, hein, la mère de famille, son métier, en fait, c'est de faire des maquettes pour des galeries d'art. Donc elle a besoin, enfin on comprend qu'elle a besoin en fait de ces maquettes là pour essayer de elle-même gérer des problèmes passés, à une enfance et une jeunesse absolument traumatisantes, et un passé avec des secrets particulièrement lourds à porter. Et donc elle a besoin de ça pour essayer de remaîtriser en quelque sorte son environnement, sauf que l'idée en fait de Ari Aster, c'est de montrer, de dépeindre, et ça c'est le premier plan du film, je crois que c'est le premier plan du film, de dépeindre en fait ces personnages et de les filmer comme si eux-mêmes étaient à l'intérieur d'une maison de poupées.
On voit d'ailleurs si les gens ont vu la bande-annonce,
on
voit ce premier plan où Gabriel Byrne réveille son fils,
et
va le chercher. Ce plan est montré dans le trailer.
Mais même ensuite, en fait, si tu veux, dans l'absence, par exemple, de profondeur de champ, dans le recul de la caméra, par exemple, il a décidé de reconstituer l'intégralité de la maison en studio, ce qui est un choix lourd à porter pour un film comme ça. C'est un petit budget, hein, quand même, Hérédité. Donc, même là, dans le recul en fait, de la caméra et tout, les personnages sont souvent ramenés à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à l'état de marionnettes, instrumentalisées, mues par des forces obscures. Mmh. L'autre chose qui est travaillée par Ari Aster, alors là qui est un peu moins évidente je trouve, ou pourtant apparemment il s'est énormément pris la tête, c'est que le film est rempli de petits détails, de petites choses qui sont qui contribuent en fait à te montrer que de toute façon il y a quelque chose qui cloche. Mmh. Et que dans leur entourage en fait direct, il y a quelque chose qui est amené à les perdre en fait, et que ils sont damnés de toute façon à la base. Et la terreur en fait, la vraie terreur en fait instillée par Hérédité, qui encore une fois pour moi fonctionne plutôt bien, c'est de se dire que de toute façon ils ne pourront pas y échapper. Oui. Et que de toute façon, de la même façon que ben, on est tous amenés à répéter les erreurs de nos parents, hein, ce qui n'a pas essayé à dire, ben, le personnage de Toni Collette est amené à répéter en fait les horreurs et surtout les atrocités que sa mère pouvait provoquer. Donc il y a des choses, il y a des trouvailles assez intéressantes. Par exemple, il y a une scène d'enterrement de la mère au début. Les figurants en fait qui sont dans la pièce où on fait les on parle de la personne que l'on va enterrer, j'oublie la terminologie, hein, vous m'excuserez, mais ne sont pas les mêmes que celles qui assistent à l'illumination ensuite, ce qui n'est pas du tout logique. Et comme ça, il y a plein de petites choses en fait disséminées comme ça dans le film qui sont amenées à nous perturber en fait, à nous troubler, oui. à fissurer un peu nos bases. Et l'autre grande qualité à mon sens aussi du film, c'est son interprétation en règle générale et en particulier de Toni Collette, qui est absolument incroyable, moi je trouve, qui dégage une énergie folle, qui passe d'une émotion à une autre de façon avec une rapidité délirante. Il se trouve que j'ai interviewé jeudi dernier et elle me l'a confirmé. Physiquement pour elle, ça a été une épreuve terrible en fait, ce tournage, et elle a dû piocher dans elle-même, dans ses émotions, des choses tellement fortes qu'elle avait besoin de faire énormément de sport pour évacuer tout ça. Et je trouve que ça sent énormément à l'image. Et rien que pour elle, c'est absolument à voir. Là où, pour moi, il y a un problème dans Hérédité, c'est dans la deuxième partie. C'est que je pense que Ari Aster, c'est un mec qui a un vrai contrôle fric, qui est un gars complètement traumatisé, je pense, lui-même. Apparemment, il aurait vécu des gros traumas aussi dans sa vie. Alors ça se ressent dans le film, ça c'est le bon côté des choses. Le truc, c'est qu'il a surpréparé en fait son film. Il a écrit notamment, rien que pour la mise en scène, il y avait une espèce de bible apparemment d'une centaine de pages qui détaillait, en écrit petit, tu vois, où il détaillait tous les principes de mise en scène de son film, etc. C'est un mec qui surprépare tout. Et je trouve que le film en pâtit un peu parce que il y a un manque d'efficacité, t'as aussi l'impression que ça se délite un peu dans la deuxième partie. Et j'ai eu moins l'impression de voir ce défaut qu'on retrouve souvent dans les premiers films où tu as l'impression que le mec essaye de mettre tout ce qu'il a en fait en lui.
C'est le fameux syndrome du premier roman.
Voilà, c'est ça. C'est comme si... Ah bon, d'accord, je ne savais pas que c'était le fameux syndrome du premier roman.
Mais en fait, parce qu'il est en train de te dire qu'il a écrit un premier roman dont il n'est pas satisfait.
Ouais, c'est pas ça. Ouais. Mais voilà. Et du coup, il y a un sentiment de trop-plein qui fait qu'il y a un certain manque d'efficacité dans la fin. Enfin, disons dans la deuxième partie, parce que moi, j'aime beaucoup aussi la fin. Je trouve que pour la fin, il raccroche en fait les wagons avec un truc complètement cryptique et autre, mais qui du coup moi me provoque en fait des émotions viscérales en fait, très basses, pas viscérales justement, c'est plus bas que ça, c'est vraiment une terreur cérébrale. Et c'est finalement, il se réfère beaucoup lui notamment à Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, des choses comme ça, et je vois pas ça en fait dans le cinéma d'horreur aujourd'hui. On le voyait un peu dans The Witch, je trouve, le
film qui est produit par la même
voilà,
équipe.
Voilà, bon, c'est un peu, il y a des équipes communes en fait entre les deux films. Mais ça, moi ça me fait plaisir. C'est, moi je crie pas ni au génie ni à l'horreur quand je vois les Conjuring par exemple, mais ça fait du bien en fait de voir un film comme ça qui se fait déjà d'une part une très haute idée en fait du genre, et puis qui d'autre part essaye de chercher une terreur qui va un peu plus loin que le coup du chat ou des trucs, des terreurs super basiques quoi. Là il y a une vraie peur presque existentielle en fait dans Hérédité, et voilà, c'est plaisant.
Stéphane.
Bah ouais, cette peur existentielle, c'est clairement le moteur du film, en tout cas dans la première partie. De toute évidence, moi je le connais pas ce monsieur, mais de toute évidence, soit il a fait une thérapie, soit il a besoin de faire une thérapie. Et ça c'est assez clair, parce que toutes ces névroses, elles se retrouvent littéralement dans l'écriture des personnages. Et d'ailleurs, toute la première partie du film, à part trois points de détail, de scénario, elle n'avance pas autrement que par les névroses des personnages et la façon dont ils se répondent en fait vis-à-vis de leurs propres problématiques. Donc c'est ce qui est passionnant, moi je trouve, dans la première partie, vraiment, parce que dès qu'on rentre dans le cinéma pur, on va dire, c'est-à-dire par exemple il y a un accident de voiture que je trouve extrêmement mal filmé, extrêmement problématique dans la façon dont c'est filmé, donc je suis étonné que le mec prépare à ce point-là, si tu veux, pour chier ses effets comme ça. Et mais c'est pas grave, parce qu'en fait, si tu veux, jusqu'ici t'as complètement pris les enjeux en main, quoi. Tout est une question de culpabilité, parce que par exemple l'enterrement qui ouvre le film, le personnage de Tony Collette ne peut pas s'empêcher de littéralement dauber sur sa mère en fait dans son oraison funèbre. C'est y a pas un mot gentil en fait dans cette dans ce speech qu'elle fait. Et elle ne parle que d'elle, elle parle même pas de sa mère, elle ne parle littéralement que d'elle. Et du coup, en fait, si tu veux, tous ces transferts, c'est ce que tu lis en fait dans la façon dont les personnages sont rédigés. Le personnage de Gabriel Byrne qui est littéralement absent en fait, si tu veux, c'est un personnage qui n'existe littéralement pas, enfin parce qu'il ne se mêle quasiment pas de la situation. Voilà. Effectivement, le personnage de la jeune fille qui est très très bizarre, quoi, tu sais pas si elle est, tu sais pas exactement si elle est autiste ou si elle est, enfin c'est un truc qui est assez, voilà. Mais tu sens qu'il y a un poids de culpabilité sur ce personnage-là qui est énorme, quoi, de la part de la mère et de la part du frère. Et ça va, il y a un plot point qui va, on va pas le dévoiler parce que ça serait dommage, mais il y a un truc qui va arriver qui va accélérer les choses. Donc tout ça, en fait, enfin moi, en fait, j'étais en train de regarder un film d'horreur, oui. Mais pas un film d'horreur, au sens classique du terme, mais vraiment un film de névrosé pure et dure, quoi. Et c'est ce qui me passionnait vraiment. Je me disais, putain, le mec, il est en train de maîtriser ça, c'est impressionnant. Et alors, moi, dès qu'en fait, il faut convoquer le genre, c'est fini pour moi dans le film, quoi. Ça marche plus du tout. Il y a des ruptures de ton, déjà, qui sont un petit peu amorcées, des rêves un peu bizarres, qui sont censés te faire un petit peu rire, mais tu sais pas vraiment sur quel pied danser. Ça marche pas trop pour moi. Et alors, moi, je suis d'accord avec Julien sur la structure du film, sur ce qui est intéressant là-dedans, dans la façon effectivement que la deuxième partie tu perds vraiment en force, quoi. Mais par exemple, je trouve pas du tout le final cryptique. Au contraire, j'ai l'impression qu'il raccroche les wagons pour essayer de dire, bah attendez les gars, je raconte quelque chose. Ce que je raconte, c'est une histoire, c'est pas moi en fait. C'est y a de ça, quoi. Et le truc, c'est que tout l'aspect fantastique, satanique, machin, c'est Et puis les effets sont ridicules, quoi. Pour moi, c'est ce qui sabote le film, en fait, si tu veux. Enfin, c'est ce qui sabote le film. Non. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire que, en fait, en fait, quoi qu'on pense, par exemple, d'un cinéaste comme Roman Polanski à une époque de sa carrière, et quelles que soient les erreurs qu'il a pu commettre en tant que personne humaine, etc., etc., ce qui est évident quand tu regardes ses films, et ses films les plus habités, et là, je parle de Macbeth, je parle du Locataire, ce genre de films. C'est des films d'une personne qui a énormément, répulsion même avant cul-de-sac. C'est le film d'une personne qui a énormément souffert dans sa vie et qui en fait retranscrit littéralement ça à l'écran de la façon la plus cathartique qui soit. Et c'est ce qui nourrit totalement, je trouve, ce cinéma-là. Mais en même temps, c'est un vrai, pour l'instant, enfin, je veux dire, je sais pas si on peut vraiment dire ça de la part de Harry
Aster.
Mais c'était un vrai cinéaste aussi qui canalisait ça à travers la mise en scène, à travers ce genre de choses. Là, le problème du plan d'ouverture, par exemple, de Hérédité, c'est que pour moi, il est sursignifiant, en fait. Dès le premier plan d'ouverture, je me suis dit, oula. Alors, effectivement, tout le reste, en fait, n'est pas comme ça. Donc, heureusement, à part les moments où il revient sur les marionnettes en question. Mais c'est déjà plus subtil, je trouve, que ce plan d'ouverture qui est quand même hyper, hyper symboliquement chargé. Mais voilà, on reste en fait dans, moi je trouve, hein, dans la mise en scène, quand c'est pas habité par toute cette tension énorme, quelque chose de finalement assez plan-plan et assez basique. Et du coup, moi je me demande même par moment s'il croit vraiment dans ces moments horrifiques, en fait, à proprement parler. D'ailleurs, en fait, c'est même ce qui est surprenant, c'est que ça prend tellement de temps à arriver, finalement, en fait, cet aspect horrifique dans le film. Et là, quand je parle d'aspect horrifique, c'est vraiment le côté, par exemple, les vieilles qui marchent sur les murs, quoi. Yeah. Tu vois, comme dans L'Exorciste 3 ou des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a 2-3 moments comme ça, mais c'est tellement déjà léger. Enfin, c'est-à-dire, il y en a 4-5 par-ci, par-là. C'est tellement, parsemé. Alors certes, peut-être parce que c'est un petit budget, j'en sais rien et tout, qu'en fait, tu as des moments où tu te dis, mais est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de justifier ça? Ou au fait, c'était des plans qu'il fallait qu'on mette dans la bonne annonce? C'est quoi? C'est une obligation de la part de la prod qui lui a dit, mais il faut qu'on puisse dire que c'est un film d'horreur pour le vendre à l'international? J'en sais rien. Toujours est-il qu'en fait, on a vraiment l'impression que ça tombe comme comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en fait, il y a cette espèce de logique d'expliquer finalement tout ce qui se passe en fait dans leur problématique par des biais qui finalement sortent de la logique de la névrose telle que on peut nous spectateurs, enfin lambda, la vivre en fait. Donc c'est assez bizarre en fait. C'est vraiment un film étrange parce que j'ai envie de le recommander d'un côté. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, bah oui, il y a quand même cette partie. Alors, si vous aimez être mal à l'aise, quoi, il y a cette première partie qui est vraiment très forte. Et je trouve que ça s'écroule, en fait, au fur et à mesure.
Tu aurais préféré qu'il reste dans une forme de réalisme, quelque part, réalisme névrotique.
Bon, j'aurais préféré qu'il réussisse le côté genre, en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai pas de problème avec l'idée qu'on puisse mêler les deux. Encore une fois, Polanski, c'est ce qu'il fait. Le Locataire, je veux dire, c'est un film qui est sur le fil du rasoir. Ça aurait pu être totalement ridicule. Et ça l'est absolument pas parce que c'est terrifiant. Donc, le truc, c'est que j'aurais préféré qu'il réussisse plutôt l'aspect genre que où on a l'impression que, je ne sais pas si c'est les desiderata du marché ou si c'est quelque chose qu'il y tenait vraiment, mais disons que, enfin, moi je perçois une espèce d'ironie par moment dans ces moments-là où j'arrive pas à en rire parce qu'en fait la première partie est tellement, encore une fois, malaisante, quoi, que du coup en fait je me dis mais j'ai le sentiment qu'il en voulait pas, et surtout en fait c'est le sentiment de voir un film qui est totalement déséquilibré pour le coup en fait, entre cette première partie extrêmement anxiogène et la deuxième partie où on va dire bah voilà c'est encore une fois c'est pas Conjuring parce que Julien il en parle, c'est pas ce genre de film en fait, parce qu'il va pas du tout dans ce truc là mais les quelques moments où il le fait tu te dis est-ce qu'on en avait vraiment besoin pour le faire, si c'est pour le faire comme ça quoi. Donc voilà, mais je pense que je pense malgré tout que si le mec persiste en fait dans cette logique là il y a des choses à voir en fait dans la suite, et je pense que ça peut vraiment être un mec intéressant parce que c'est un type qui a capté ce qui manque beaucoup en fait dans le cinéma actuel aussi hein, et pas que cinéma d'horreur hein, mais vraiment en fait à un moment donné arriver à retranscrire en fait, je pense que le mal-être qui peut lui vivre le retranscrire à travers en fait son enfin je dis le mal-être mais ça peut être n'importe quel sentiment au fond arriver à le retransmettre à travers la façon dont on va présenter les personnages, jouer avec eux, effectivement. Et effectivement, là-dessus, c'est un excellent même directeur d'acteur, je pense, parce qu'il a réussi à sortir des choses de Toni Collette. Moi, je ne suis pas aussi fan que Julien de Toni Collette, parce qu'il y a certains films où je la trouve moins... Voilà. Mais c'est vrai que là, elle est bluffante, en fait.
Dans Triple X 3...
Elle est moins bien, déjà.
Elle est un peu moins bien, c'est vrai.
La pauvre.
Là, c'est ça,
il faut bien manger. Pourtant,
elle était quand même dirigée par DJ Caruso, qui a pris des leçons chez Cassavetes, comme il le dit lui-même. Donc voilà. Mais le truc, c'est que voilà, donc il y a ce truc où c'est Mitch quoi. C'est-à-dire en fait, tu te dis tiens, il y a vraiment.
Je pense qu'il en a vraiment envie hein, de l'aspect fantastique. Après, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus réussi. Mais moi, j'ai quand même réussi. Ce qui m'a plu en fait dans le truc fantastique, alors c'est pas systématique, mais il y a des. J'aime quand il arrive à le relier justement aux névroses des personnages. Quand ça nourrit ça. Je pense à l'ado, à deux trois trucs en fait qui se passent avec lui.
L'autre qui marche sur les murs, c'est lié à rien du tout. Enfin, tu vois, c'est
lié à Toni Collette quand même, quoi. Mais et je trouve que c'est encore ça sur la fin. Non, mais après on va rentrer dans les trucs de détail. Oui. Mais
ne disséquons pas trop plus avant le film.
Non, mais c'est un film qui est super intéressant. Je pense que c'est un film, c'est de toute façon où. Je pense que tout le monde aura quelque chose à en tirer. C'est peut-être un film qui va vous irriter. Hein. C'est peut-être un truc.
Moi, j'avais des gens qui rigolaient dans la salle, dans la projo. Mais c'est normal. Enfin,
c'est un film un peu étrange.
Oui. Quoi. Enfin,
mais je pense que c'est pas un film qui vous laissera indifférent de toute façon. Quoi.
Parce que c'est déjà plutôt une grande qualité.
Pour moi, c'est pas rien. Quoi. Et je pense qu'il y a. Effectivement, je pense qu'Ari Aster, il a quelque chose. Quoi. Et j'ai pas vu ses cours, moi encore. J'ai pas eu le temps. Mais apparemment, il y a un pitch d'un de ses cours, moi, qui m'a. Rien qu'en le lisant, je dis ah quelle horreur. Et je pense qu'il a.
Tu t'en souviens?
C'est le viol d'un père vieillissant par son propre fils. Donc c'est quand même chargé quoi. Tu vois le truc, tu dis putain. Bon,
chargé,
alors,
c'est le mot. Ouais.
D'abord, je me regarde.
Ouais, mais tu vois, ça c'est un truc qui est horrible. Mais en même temps, en fait, si tu veux, t'as pas besoin de convoquer le fantastique là-dedans. Et tu le convoques, en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne raison. Oui. Et le truc, c'est que c'est ce qui me pose un petit peu problème dans Hérédité. C'est-à-dire que le film, il porte son titre clairement, si tu veux. Je dirais pas que c'est une logique de fatalité, comme dirait Julien. Je n'aborderais pas ça comme ça, en fait. Mais le truc, c'est que, par contre, c'est sûr que, ton éducation t'amène si t'arrives pas à t'extraire en fait de la façon dont on t'a présenté le monde, bah tu penses que le monde est comme ça quelque part. Et le truc, si tu veux, c'est que tout quand tu joues avec des personnages qui sont des adolescents, des enfants, des choses comme ça, bah forcément en fait ils sont en plein dans ce jus là en fait, dans ce bain là et encore une fois je pense que si tu t'intéresses à la psychiatrie et tout ça, etc., etc., c'est passionnant en fait à regarder de ce point de vue là mais disons que comment dire disons que pour moi en fait peut-être que j'ai pas vu le symbolisme que Julien a pu voir qui amène effectivement ce fantastique là, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que là-dessus on a plaqué une espèce de logique de satanisme un petit peu voilà quoi. J'aurais un peu plus joué
quand même vachement préparé ça, tu le sens.
Oui, mais j'aurais plus joué sur les marionnettes, ce genre de truc, tu vois, enfin c'est ce malaise là en fait si tu veux. Et le truc si tu veux, enfin quand je dis marionnettes, c'est vraiment les petites recréations
les
qu'elle fait, voilà,
ouais,
les miniatures, mais le truc si tu veux c'est que à part ces logiques là, ouais, pour moi au final en fait, on a l'impression que l'aspect fantastique est plaqué. Et alors que le type peut avoir effectivement des idées qui sont proprement horribles, et dès que t'as pas besoin d'avoir vu le film pour savoir que ça l'est, quoi.
Oui.
Donc, voilà. Et qui lui échappe aussi, je pense.
Possiblement,
c'est ça aussi ce qui est intéressant. Hein. C'est que quand moi je lui ai demandé, je lui ai dit, mais alors, tout le fantastique, l'horreur vient des femmes en fait dans votre truc, pourquoi? Enfin, ça me semble tellement évident dans l'hérédité. Je me suis dit, il y a pensé, et il a eu un temps d'arrêt, mais alors, il me dit. J'y avais pas pensé.
Peut-être misogyne.
Je sais pas. Alors bon, je pense que oui, effectivement, il s'est foutu sur la défensive, parce qu'ils sont tellement flippés avec les MeToo et machin. Mais je me suis dit, c'est intéressant en fait cette réponse là, parce que ça montre bien quand il y a un truc qui lui échappe en fait, quoi. Il est habité, quoi, le garçon.
Bon, très bien. Bah, donc on guettera.
En plus, alors,
les problèmes, ce garçon. On guettera avec attention ses prochains films. Ce brave Ari Aster. Avant de se quitter, les amis, comme d'habitude, on offre à nos auditeurs de belles recommandations toutes fraîches. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner du cinéma d'horreur si vous en avez l'envie et de vous rapprocher par exemple du cinéma de Clint Eastwood, n'est-ce pas, Stéphane Moïsakis,
au hasard.
Pour compléter ta grande œuvre. Qu'as-tu choisi cette fois-ci?
Alors j'allais vous parler de Doudure et Dingue 2, non.
Non,
ça va cogner. Non, bah en fait il y a moi je trouve un très grand film qui n'est pas de Clint Eastwood mais qui est avec Clint Eastwood. Uh-huh. Qui n'est pas de Clint Eastwood, ça se discute aussi d'une certaine manière parce que
Clint Eastwood, c'est un film de Clint Eastwood.
Oui, mais en fait non pas à cette époque-là.
Ah, ça y est, je sais.
Et le truc c'est qu'en fait c'est surtout un film qui est extrêmement habité, pareil, avec un espèce de mal-être.
Qui vient des femmes aussi.
Mais pas que en fait, parce que je pense que c'est un film qui est extrêmement, c'est un des trucs qu'on leur a reproché, c'est Les Proies en fait de Don Siegel qui a été remakeé l'année dernière par.
Tout à fait.
Ce film n'existe pas.
Sofia Coppola, j'ai pas vu, mais ça m'intéresse pas trop. Et le truc c'est que en fait ça m'intéresse pas à plus forte raison parce que je connais très très bien l'original que j'ai dû voir une vingtaine de fois et que je trouve vraiment surpuissant quoi. Et qui, en gros, l'histoire, c'est Clint Eastwood, c'est pendant la Seconde Guerre, la guerre de sécession,
ouais.
Pardon, c'est, il joue un soldat, je
et
crois.
C'est réalisé par Don Siegel.
Mais Don Siegel, à l'époque, était dans une espèce de logique de collaboration aussi, c'est pour ça que je dis que Clint Eastwood il y a beaucoup de photos de tournage où tu le vois derrière la caméra, Clint Eastwood et tout ça, etc. Il essayait d'apprendre le métier sur le truc, il a fait son premier film juste après, qui était Un frisson dans la nuit. Et en fait, en gros, c'est un soldat, je sais plus s'il est nordiste ou sudiste, en fait, qui est blessé à la guerre et qui tombe en fait dans une
nordiste.
Nordiste.
Tu te souviens pas bien du film, tu l'as vu 20 fois pourtant.
Ouais, mais c'est pas important au début, tu vois. C'est pas important au début, truc. Et il tombe en fait dans une espèce de, pas de couvent, mais de truc de jeune femme, en fait, de jeune fille, quoi, qui est menée par une matriarche très très stricte. Et en fait, il va commencer à user de son charme, pour en fait se faire une place en fait dans ce harem de femmes entre guillemets quoi. Et ça va se retourner littéralement contre lui parce qu'en fait il va toutes les trahir quoi, l'une après les autres quoi. Alors c'est un film qui est très très malsain parce que Clint Eastwood, il y a beaucoup de, enfin déjà lui il détourne énormément son image d'homme viril et tout ça, etc. Ensuite t'as quand même des scènes où il drague des gamines de 9 ans, enfin une gamine de 9 ans notamment, et qui est très très perturbante quoi, parce que il en joue quoi, enfin voilà. On peut effectivement partir du principe qu'il y a un panel de représentation de la femme qui est assez qui pourrait être considéré comme misogyne, mais il faut aussi quand même préciser que Clint Eastwood c'est une grosse merde, c'est un gros enculé dans le film quoi. Il joue quand même une ordure quoi, et ça c'est notamment montré par des moments précis où il ment littéralement aux femmes, et en fait t'as des flashbacks en muet en fait, tu vois, en off, qui le montre en fait en train de par exemple il dit moi je suis quelqu'un qui a toujours respecté la nature, et tu le vois en train de brûler des champs, des cadavres, en avoir rien à foutre et tout. Donc t'as tout un c'est, pour moi c'est surtout un film misanthrope quoi. Ça c'est Don Siegel aussi, ça c'est pour le coup, c'est voilà. Et après alors le truc en fait, la raison pour laquelle je connecte un petit peu ça à Hérédité dans l'absolu, au-delà de ce malaise, c'est que pour le coup en fait il y a une imagerie gothique extrêmement travaillé dans le film et qui lui donne un énorme poids aussi visuel en fait. C'est-à-dire que t'as beaucoup de par exemple, t'as ce moment en fait où Clint Eastwood comprend que la matriarche en fait était plus ou moins enfin, couché plus ou moins avec son frère qui a disparu, et que donc, en fait, la présence du frère qui n'est plus là, en fait, voilà, t'avais tout un espèce de truc, et en fait, Don Siegel te montre les flashbacks, en fait, dans l'ombre de Clint Eastwood, enfin, t'as tout un jeu comme ça, en fait, ouais. Qui est extrêmement fort. T'as la présence d'un corbeau noir, en fait, qui attend, justement, en gros, si tu veux, la fatalité qui va arriver, ouais. Enfin, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, c'est assez. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre total. C'est pour ça que je veux dire, vu ce que j'ai vu du cinéma de Sofia Coppola, je pense que ça m'étonnerait qu'elle arrive à ce niveau-là, quoi. Je jetterai peut-être un œil un jour pour confirmer ou infirmer, mais
pour t'énerver,
pour m'énerver, ouais, peut-être. Mais voilà, c'est vraiment un film extrêmement vénéneux, très noir, mais qui est pour moi un des très très grands chefs-d'œuvre. Alors déjà, je pense que c'est le meilleur film de Don Siegel. Et un des très très grands chefs-d'œuvre dans la carrière de Clint Eastwood, et qui est complètement, passé sous silence, en fait, parce qu'on n'en parle pas vraiment, c'est un peu oublié. Voilà, ça a été un peu relancé l'année dernière parce qu'effectivement il y a le remake, donc on en a un peu reparlé, mais voilà quoi. Et moi je mettrais ça dans la veine Polanski de cette époque-là aussi, quoi, c'est-à-dire Macbeth, des trucs comme ça très très habités, viscéraux et noirs en fait dans leur représentation du monde très très misanthrope, quoi.
Julien,
alors moi c'est un peu plus tiré par les cheveux en fait. Ari Aster, une de ses références, c'est Carrie, le De Palma, et du coup c'est l'occasion de juste vous signaler que chez Carlotta est sorti un documentaire qui s'appelle De Palma. Très sobrement, voilà, et dans un coffret vraiment magnifique comme Carlotta sait les faire.
Il paraît que David Honorat en a 18 exemplaires.
Ouais, non, mais en plus, il y a des trouvailles. Bah, c'est un truc de fan, quoi. Mais par exemple, il y a des facsimilés de dossiers de presse de l'époque à l'intérieur. Il y a Fury et il y a. Je sais plus lequel, je suis désolé, un blowout, je crois. Mais voilà, puis avec des belles photos, etc. Et mais c'est le doc, évidemment, qui vaut le coup d'œil. C'est un doc qui dure 1h50. Il n'y a que De Palma, et en plus, filmé sous une seule valeur de cadre. Avec en plus un cadre qui est pas très flatteur, enfin c'est pas très glamour, c'est pas super travaillé, quoi. Mais moi je trouve qu'en fait cette limite de mise en scène qui est indéniable joue en faveur du film, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une réelle intimité en fait avec De Palma, qui revient sur toute sa vie, toute sa carrière. Alors comme il a une carrière, une vie assez dense, ça peut être un peu frustrant en fait sur certains titres, mais en même temps c'est réjouissant parce qu'en fait De Palma, on sait que c'est un mec qui n'aime pas trop l'exercice de l'interview. Bon, il en a quand même donné un paquet, etc. Mais malgré tout, tu le vois rarement en fait parler comme ça et d'être aussi volubile et aussi drôle et tout. Et ce qui est super plaisant en fait dans le film, c'est que d'une part, il se dévoile sans phare, hein, donc il raconte des fois des choses qui sont très très personnelles, y compris notamment sur ses parents, qui relie de lui-même d'ailleurs à certaines récurrences en fait de son cinéma. Et ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, il dévoile des anecdotes de tournage qui sont vraiment hilarantes et qui ne sont pas à la gloire des personnes qui sont dans les anecdotes d'ailleurs en général, mais qui sont vraiment super drôles et qu'il faut écouter. Surtout qu'il a un vrai talent de conteur, moi, que je lui ai découvert encore une fois à De Palma. Pourtant il parle des fois sur les bonus et tout, mais je l'ai jamais vu comme ça en fait s'animer comme ça. Il faut dire que le film est réalisé par Jack Paltrow.
C'est ça, il est à l'aise en fait.
Ouais, il est co-réalisé par Jack Paltrow, qui est le frère de Gwyneth Paltrow, et ce sont leurs parrains et Steven Spielberg. Et Spielberg est lui-même évidemment un ennemi de longue date en fait de Palma. Donc j'imagine que ça a aidé, quoi.
Non, mais même il y a Noah Baumbach aussi. Baumbach en fait a réalisé des bonus avec De Palma pour Criterion aussi. Donc c'est pour ça qu'ils se connaissent depuis un moment maintenant. Oui. Et voilà.
Et qu'il y a cette réelle proximité. Et le truc peut-être le plus intéressant pour nous tous, c'est que De Palma, il revient sur certaines des tropes les plus identifiables en fait de son cinéma, notamment le split screen, et il dit des choses absolument passionnantes, moi je trouve, là-dessus, sur pourquoi il l'a fait, quel effet ça produit sur les spectateurs, et pourquoi notamment il s'est planté, pourquoi dans Carrie il s'est planté en utilisant le split screen, alors ça, enfin à son sens. Donc voilà,
tu as parlé de la fin alternative aussi.
Il y a ça, non, j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'il y a la fin alternative.
Il y a un truc,
c'est
que bon, quand t'aimes le cinéma de De Palma, je pense que même si le film n'est pas complètement abouti, t'aimes quand même Snake Eyes parce que c'est un film qui tellement analyse le
Nicolas Cage.
Voilà, mais non, mais c'est un film qui aussi auto-analyse le cinéma de Palma, même peut-être
Carla
pour la première fois. Et enfin, on sait tous que la fin était problématique en fait sur Snake Eyes, et il y avait des grosses rumeurs comme quoi c'était une fin, il y avait une fin alternative qui était tournée au préalable.
Puisque c'était
on le savait, mais en fait, comme le truc n'avait jamais été vraiment, il n'y avait pas d'image, ça n'a jamais été dévoilé et tout. Bah là, en fait, ce qui est ouf, c'est comme ça au détour du moment où, parce que ça arrive vers la fin du film, quand ils se mettent à parler de Snake Eyes, tu vois la fin alternative, alors qui est en piètre qualité parce que c'est une VHS.
Mais tu vois que c'est un truc hallucinant parce qu'en plus c'est une grande vague en images de synthèse qui arrive. Enfin, c'était une idée déjà complètement folle, quoi.
Ouais, c'était un truc où ils devaient nettoyer la ville, Sin City, quoi. Tu vois la ville du péché. C'était un espèce de truc biblique, quoi. Et du coup, enfin, moi c'est le seul endroit où j'ai vu ces images-là, donc rien que pour ça aussi. Le
pour ça,
le coup, quoi.
Oui, c'est clair, c'est rareté plus. Et très bien cette petite recommandation, monsieur Dupuis.
Je voulais faire un dossier dessus, on m'a pas laissé
faire.
Mais j'aurais essayé, j'aurais pu vous parler de La Poursuite de Kevin Bacon de Taika Waititi, qui est un excellent film, achetez-le.
C'est pas possible, il est insatiable. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci Quentin à la technique, merci à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.